Merci Seigneur pour sa présence au milieu de nous. J'aimerais vraiment encore prier. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre gloire parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Nous te louons parce que tu es réel. Je te loue que tu es tellement réel que nous pouvons vraiment nous appuyer sur toi dans tous les jours de notre vie. Je te prie vraiment de bénir ce temps, Papa, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à tous ceux qui sont là, peut-être pour la première fois. Il me semble qu'il y a des personnes que je ne connais pas nécessairement. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. J'étais content de voir qu'on a marché tout à l'heure. Parce qu'il y avait une pensée que j'avais à cœur. Un jour, Moïse, il a combattu avec Dieu. Il a dit, Seigneur, tu m'as dit de faire sortir ce peuple. Mais Seigneur, je n'irai plus si tu ne marches pas toi-même avec nous. Vous vous rappelez de ce passage? Et Seigneur, il a dit, mais je ne peux pas être au milieu de vous. J'aimerais, mais je ne peux pas. Parce que je vous détruirai. À cause de ma sainteté et de ma gloire, vous seriez détruits sur place. Et pour vous préserver, je suis obligé d'aller devant vous. Est-ce que vous croyez qu'on est meilleur que les Israélites de ce temps? On est pareil. On est aussi dur, on est aussi méchant. On a les mêmes problèmes d'incrédulité, d'orgueil, d'attachement à notre vie passée. On a les mêmes soucis. Et le Seigneur, il pourrait réagir de la même façon. Qu'est-ce qui a changé? On a une meilleure. Une meilleure alliance. On a une meilleure alliance. L'alliance de ce temps, elle essayait de montrer à Israël le point qu'il devait atteindre. Le degré de sainteté qu'il devait atteindre, le degré de justice. Et tout ce que Israël a pu prouver, c'est que l'homme, malgré tout le soin que Dieu peut lui donner, par lui-même n'atteindra jamais ce degré de justice et de sainteté. Mais notre alliance à nous, elle est différente. Dieu a dit, bon, ben maintenant quand vous savez que vous ne pouvez pas, je vais faire quelque chose de nouveau. Je viens demeurer en vous. Le Dieu de sainteté et de gloire est devenu habiter en nous. Et on n'est pas détruit. Malgré que la présence de Dieu habite en nous, on n'est pas détruit. Et il est tous les jours face aux murailles de notre âme et il voit toutes nos pensées, il voit tout ce qui habite en nous, il voit notre dureté, notre égoïsme, nos colères, toutes les choses qui ne sont pas réglées du passé, tout l'amour qu'on a encore pour notre propre chair. Et le Seigneur, il ne part pas et il ne nous détruit pas non plus. Pourquoi? Parce que quand il est venu habiter en nous, il est venu nous justifier complètement, il nous a lavés. Et maintenant, on est pur devant lui, on est saint. Et désormais, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut habiter en nous et il veut marcher au milieu de son peuple. Dieu n'est pas un Dieu qui veut demeurer loin et regarder comment son peuple va faire. Il est au milieu de nous, il marche au milieu de nous. Quand on a marché tout à l'heure, je crois vraiment que le Seigneur est venu au milieu de nous et il a marché au milieu de nous. Et la semaine dernière, j'avais vraiment cette pensée. La gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut qu'on demeure dans sa gloire. Et comment on peut demeurer dans sa gloire si on est tel qu'on est nous-mêmes par nature? Il peut pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous couvre de sa gloire. Il va nous couvrir de gloire pour qu'on puisse demeurer dans sa gloire. Si on n'est pas couvert de gloire, ce sera nos pauvres métaux. Hein, tout ce qu'on est en ferraille, en acier, en bois, en paille, et ça va tout brûler devant Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vient et couvre d'or. C'est le seul qui a trouvé comment transformer le métal en or. Il a réussi, il nous a transformés de gloire en gloire, et maintenant il vient demeurer au milieu de nous. Et qu'est-ce que Moïse a dit à la fin? Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il a soupiré après la gloire de Dieu. Il avait connu déjà beaucoup de choses du Seigneur. Il avait vu le buisson, il avait vu les miracles, il avait vu les plaies d'Égypte, il avait vu le Jourdain, et il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'ai encore faim de plus de toi. Je veux voir ta gloire. Si je ne vois pas la gloire de Dieu, tout ça ne me sert plus de rien et ça ne m'intéresse plus. Je ne veux pas moins que ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit? Je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Le Seigneur, il lie sa gloire à sa bonté pour nous. La bonté de Dieu, c'est la même chose que la gloire de Dieu manifestée envers nous. Et je crois que c'est un des temps où le Seigneur il veut manifester sa gloire envers nous. Et qu'est-ce que ça va être manifester sa gloire au milieu de nous? C'est manifester sa bonté. Si on prend dans Tite, chapitre 3. Verset 3. Il fut un temps où nous-mêmes nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, désobéissant, égaré, esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns et les autres. C'est un sombre tableau. Et si vous preniez dans Éphésiens 2, je ne le ferai pas parce que ce serait trop long, versets 3 à 10, j'ai été touché par ces deux textes parce que ces deux textes vont dans le même sens, évoluent de la même manière. Dans Éphésiens 2, nous disons, nous accomplissions ce qu'on voulait, on faisait les désirs de la chair, on était des enfants de colère comme les autres, nous étions destinés à la colère de Dieu et nous étions morts spirituellement. On a le même sombre tableau. Vous êtes d'accord avec ce tableau? Est-ce qu'on reconnaît ça? Est-ce qu'on reconnaît qu'on en était là? Ou est-ce qu'on pense que quelque part, on a mérité que Dieu nous aime et qu'on a mérité que Dieu travaille avec nous? Les seigneurs nous traitent de haïssables, chacun. Ils nous traitent d'esclaves des désirs, insensés, égarés, morts. Voilà ce que Dieu dit sur nous par nature. Mais il y a un mais. Verset 4, il y a un mais. Mais, quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Dieu a révélé sa bonté et son amour pour les hommes et nous a sauvés. Et dans Éphésiens 2, on lira, « Mais Dieu qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, de la même façon Dieu réagit. Il voit le tableau et il veut sauver à cause de sa bonté et de son amour. » Après, on prend, si on dit, on continue à lire, s'il a fait, ce n'est pas parce que nous étions justes. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer, etc. Je vais lire passer un peu, verset 6. Il a répandu son esprit avec abondance sur nous. Et il a fait, verset 7, pour que déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle, en espérance. Verset 8, c'est une parole certaine. Je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'applique à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est utile aux hommes. Des œuvres bonnes. Éphésiens 2, il nous a sauvés par sa grâce. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a assis dans les lieux célestes avec lui afin de montrer l'extraordinaire richesse de sa grâce et afin que nous, et il nous a aussi créés pour des œuvres bonnes. Amen. Préparé d'avance afin que nous y marchions. Voilà le plan de Dieu au travers de sa bonté. Et je voudrais prendre dans Matthieu 20, si vous voulez prendre avec moi. Et Matthieu 20, c'est mon texte, c'est le texte central sur lequel je veux vraiment m'appuyer. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit le matin de bonne heure, un chef de maison, un maître de maison, afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Il convint avec eux de leur donner un salaire, un denier pour la journée, et il les envoya dans sa vigne. Vers 9 heures du matin, il sortit de nouveau et en aperçut qu'ils se tenaient sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit, « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Et je vous paierai ce qui est juste. » Et ils y allèrent. Il sort encore vers midi, puis de nouveau vers 3 heures de l'après-midi, et chaque fois il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5 heures du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit, « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée sans rien faire ? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur, « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye, donne-leur le salaire. Tu commenceras par les derniers et tu finiras par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchèrent chacun un denier. C'est juste à votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Ils travaillent une heure et touchent un denier. Mes enfants, ils ont dit « C'est pas juste !» Puis vient le tour des premiers engagés. Eh bien, ils étaient d'accord avec moi. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun un denier. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du maître. Ceux-là sont arrivés les derniers et ils n'ont travaillé qu'une heure. Et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. Mais le maître répond à l'un d'eux. Mais mon ami, je ne te fais pas le moindre tort. un denier. Ce n'est pas le salaire sur lequel on s'était mis d'accord. Prends ce qui te revient, rentre chez toi. Et si ça me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, ça me regarde. Est-ce que je n'ai pas le droit de faire de mon argent ce que je veux? Ou bien, m'en veux-tu parce que je suis bon? M'en veux-tu parce que je suis bon? Et dans littéralement, on dirait, le Seigneur disait, est-ce que ton regard devient méchant parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront les premiers, comment les premiers seront les derniers. Et j'avais vraiment à cœur de vous partager de ça, de ce maître. Nous avons un maître qui nous a engagés pour sa vigne. Regardez ce maître, qu'est-ce qu'il dit de lui? Il montre qu'il est un maître comment? C'est un maître bon. C'est un maître qui est bon. Et j'ai été surpris parce que j'ai regardé un peu ce que la Bible disait sur le maître. Et vous savez que j'ai presque jamais entendu une prière où on disait maître. Est-ce que ça vous est déjà appelé d'appeler le Seigneur maître? Est-ce que vous l'avez déjà dit maître? Dans Jean 13, 13, vous m'appelez maître et Seigneur et vous faites bien car je le suis. Et il dit un peu plus loin, si moi le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez faire vous les serviteurs la même chose. Dans Éphésiens 6, 9, il dit leur maître et le vôtre est dans les cieux. Jude 4, certains redisent notre seul maître et Seigneur. Acte 4, 24, quand ils ont prié parce que Pierre était en prison, ils ont dit maître, maître. Ils prièrent et dirent maître, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Dans Apocalypse 6, 10, les âmes des saints qui sont sous l'autel, ils disent quoi? Ils disent jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tarderas-tu à faire justice. Vous vous rappelez que Pierre Conga nous avait parlé de la parabole du fils du père qui avait deux fils. Il nous a montré que c'était un père et que c'était une image de père qu'on devait retrouver, ce père rempli d'amour pour les siens, rempli d'amour pour son fils. Et je crois ce matin que le Seigneur veut nous dire, il est père et il est maître. Et que ce maître-là, ce n'est pas un maître dur, ce n'est pas un maître exigeant. Je ne sais pas quelle est l'image du maître qu'on a en nous. Quelle est l'image du chef dans notre tête? Quelle est l'image du propriétaire? Quelle est l'image du maître? Et le Seigneur veut dire, mais je suis un maître, je ne suis pas dur. Je ne suis pas exigeant envers toi. Je ne suis pas méchant. Je n'ai pas envie de te faire du mal, je n'ai pas envie de te prendre en faute. Je n'ai pas envie de prouver que tu n'es pas à la hauteur. J'ai envie que tu réussisses et j'ai envie de te dire que je suis avec toi, que je suis bon envers toi. Qu'est-ce qui s'est passé avec les premiers serviteurs? Qu'est-ce qu'ils avaient eu? Comment ils ont fonctionné par rapport au maître? Ils sont venus, vous avez remarqué? Le maître discute avec les serviteurs et dit, voilà, vous allez travailler dans ma vigne, et il conclut un accord. Tu travailles, je te donne 100 euros. Voilà, 100 euros pour ta journée. Est-ce que ça te va pour toi? Ok, ça marche. Les serviteurs vont travailler. Ils disent, pour 100 euros, ça vaut le coup, je vais travailler. Pour 20 euros, je ne serais sûrement pas allé, mais 100 euros, c'est bon. Mais le maître, pour eux, ne les intéresse pas. La vigne ne les intéresse pas. La famille du maître ne les intéresse pas. Ces terres, ils ne s'en occupent pas. Eux, ils vont travailler parce qu'ils ont un objectif. Et l'objectif, c'est leur salaire. C'est ce qu'on a appelé les mercenaires. Ils y vont, c'est bien, ils font un bon travail. Mais leur cœur n'a pas été touché par le maître. Ils n'ont pas découvert le maître qui il est vraiment. Ils sont restés en relation avec un employeur qui va leur donner son salaire à la fin de la journée. Les seconds, vous avez vu comment ils fonctionnent? Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à rien faire? Non, pardon. Vous aussi allez travailler dans ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. Il y a un changement, vous avez remarqué? Il n'y a plus d'accord sur un salaire fixe. Il ne leur promet pas 100 euros, il ne leur dit rien. Par contre, il dit, je vais vous donner quelque chose. Vous aurez ce qui est juste, vous inquiétez pas. Allez travailler, vous aurez votre récompense. Et les serviteurs, ah ben ok, ils n'ont plus de promesses. Ah, peut-être eux, ce sera 20 euros, ils n'en savent rien du tout. Mais ils ont peut-être été, je ne sais pas, il y a quelque chose qu'ils ont fait qui disent « Ok, bon, ça me va, moi. » Ils ont découvert quelque chose, peut-être c'est le maître qui les a touchés. Et ils acceptent de dire « Bon, on va travailler, même si on ne sait pas finalement pourquoi on va travailler. Je sais que je vais toucher quelque chose, j'aurai une récompense, donc ça vaut le coup. J'y vais. » Et ils vont travailler dans la vigne. Ils sont un peu touchés par le maître. Il y a quelque chose dans le cœur du maître, dans la personnalité du maître, qui les a touchés. Et ils se sentent concernés par ce qu'il vit. Et ils vont travailler avec un objectif différent. Ils ne travaillent plus pour le même salaire. Ils travaillent pour une récompense. Ils ne travaillent plus pour un salaire, mais pour une récompense. Ils disent, je vais avoir une récompense pour mon travail. J'ai envie de m'engager parce qu'il y a une récompense qui m'attend. Mais les troisièmes, pourquoi vous n'avez rien fait toute la journée? Pourquoi êtes-vous resté sur la place? Pourquoi n'êtes-vous pas à une vigne à travailler pour quelqu'un? Seigneur, personne n'a voulu de nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on ne nous a pas trouvé peut-être assez bon ouvrier. Peut-être qu'on ne nous a pas pensé capable de faire quelque chose de bon, je ne sais pas, Seigneur, mais personne ne nous a embauchés. Et le maître dit, « Eh bien, allez travailler chez moi. » Aucune promesse. Salaire? Pas question. Récompense? On n'en sait rien du tout. Est-ce que quelque chose leur sera donné? Ils n'en savent rien. Et ils y allèrent. Ils travaillèrent. Ils ont travaillé une heure. Peut-être c'est gratos. Hein. Peut-être c'est pour rien que j'ai travaillé. Mais eux, s'ils ont été, c'est que quelque chose les a frappés encore plus. Quelque chose chez le maître les a vraiment touchés. Ils ont été touchés par le maître. Ils ont vu chez le maître quelque chose qui leur dit « Mais j'ai envie de travailler pour lui. J'ai envie d'aller voir sa vigne. » Et ce sont des serviteurs qui ont un cœur pour le maître. Est-ce que vous les voyez avec moi, ces serviteurs? Est-ce que vous les comprenez, ces serviteurs? Il y a quelque chose qui font que ces serviteurs-là ne vont pas fonctionner de la même façon que les autres parce qu'ils n'ont pas le même objectif. Il y a quelque chose, c'est ces serviteurs. Et le maître, j'ai l'impression qu'il va nous le montrer. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, allez, c'est la fin de la journée, on va payer. Mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur commence par les derniers. Je ne sais pas. Je me suis posé cette question, je n'ai pas de réponse. Mais toujours est-il qu'il le fait. Il commence par les derniers. Et il dit, appelez les derniers. Les derniers, venez là. Vous avez travaillé une heure. Il faisait frais, c'est vrai. Le travail était beaucoup avancé déjà. Ben voilà, 100 euros. 100 euros pour une heure. Ah, la bonne paye. Seigneur. Eux, ils n'ont pas dit, c'est pas juste, hein. Vous avez remarqué? Ils n'ont pas dit, oh, c'est pas juste, Seigneur. 100 euros, non, c'est pas juste. Nous, on n'a pas travaillé une heure. Tu dois travailler divisé par 12. Ça nous fait 8 euros à peu près 50, hein. Donc non, écoute, Seigneur, garde les 100 euros. Donne-nous 8 euros 50. Soyons justes. Non. Ils ont pris. Ils ont compris que c'était au-delà de la justice. Ils ont goûté la bonté du maître. Ah, oh, le maître, comme il est bon. 100 euros pour une heure de boulot. Ça, c'est une paye, hein, comme j'en veux encore d'autres. Seigneur, là, tu m'as bien payé. Hein, une heure et 100 euros. Seigneur, je peux retravailler encore une heure. J'ai bien encore une fois touché 100 euros pour une heure. En plus, il faisait frais. En plus, on n'était pas seul, hein. Il y avait déjà plein d'ouvriers qui avaient travaillé avant nous. Ils avaient fait presque tout le travail, Seigneur. Ils avaient travaillé toute la journée, les premiers. Ils ont bossé dur parce qu'ils étaient 4-5 à bosser. Nous, on arrive, il y en avait déjà une trentaine. Le travail était presque tout avancé. Et tu nous donnes 100 euros à nous, Seigneur, mais Seigneur, tu es trop bon. Est-ce que vous aimez cette bonté-là? Vous la voulez, cette bonté du Seigneur? Et le second, ils n'en parlent pas. Mais ils ont touché 100 euros. On ne dit pas ce qu'ils en pensent, hein. Mais nous aussi, Seigneur, c'est vrai qu'on a travaillé plus. C'est vrai qu'on a, c'était dur quand même dans la journée. Mais Seigneur, on n'avait pas d'accord. Tu nous avais rien promis, tu n'avais pas promis un salaire. Tu nous avais dit juste une récompense. Tu en pensais peut-être, je sais pas moi, 20, 30 euros. Et tu nous donnes 100 euros, Seigneur. Mais Seigneur, tu es bon. Seigneur, pourquoi cette bonté envers nous? Alors les premiers. Waouh, ça va pas du tout, hein. Ah non, alors là, c'est pas juste. On a bossé toute la journée. On était là les premiers. On était seuls. Il n'y avait pas d'autres qui ont travaillé avec nous. Ils n'ont rien fait. Ah non, alors. Je suis pas d'accord. Je veux autre chose. T'es pas juste, Seigneur. D'abord, t'es pas bon. Ben ouais. Tu m'as donné que ce que tu m'avais promis. T'es pas bon et t'es pas juste. Est-ce que c'est correct leur attitude ? Ben, je la comprends. J'aurais dit la même chose, hein. Si j'avais dû bosser 12 heures et que d'autres aient bossé une heure et qu'ils touchent 100 euros et moi aussi, je dis, mais il y a de l'injustice. Mais le problème, il est où le problème ? Le problème n'était pas chez le maître. Il leur dit, je te fais pas tort. Donc il fait pas de mal. Il leur a fait aucun mal. Il leur a payé 100 euros. Moi, j'ai bien travaillé pour une journée pour 100 euros, c'est juste. La preuve, c'est qu'ils avaient un accord. Ils avaient fait un salaire. Et ils disaient, ah oui, pour 100 euros, d'accord, moi, je vais bien travailler la vigne. Mais ils avaient vu la bonté de Dieu. Et quand ils ont vu la bonté de Dieu, ils se sont dit, mais mon salaire, ça vaut plus le coup à côté de la bonté de Dieu. Seigneur, mais ta bonté vaut mieux que mon salaire. Nous, on a fonctionné par le salaire. On a l'habitude de fonctionner par le salaire. C'est le salaire qui règle nos vies. Telle chose mérite telle chose. Tel travail mérite tel salaire. L'objectif des ouvriers, ils l'ont eu. Ils ont eu un objectif de 100 euros pour leur journée de travail et ils sont mis d'accord avec le maître. Et le maître a été juste envers eux. Il leur a donné ce qui était juste. Il était bon envers eux. C'est un salaire très correct. Il a manifesté sa justice et sa bonté envers les serviteurs dans la mesure où il la leur a permise. Ils leur ont donné une mesure de 100 euros pour 12 heures. Et le Seigneur a dit, je te donne selon la mesure que tu me proposes. Et voilà, je te donne selon la mesure que tu m'as donnée. Reçois ce que tu as attendu. Reçois ce pourquoi tu t'étais engagé. Et les seconds, qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Ils ont donné la mesure d'une récompense. Ils ont dit, moi je travaille pour une récompense. Ils ont donné au Seigneur la mesure d'une récompense. Et le Seigneur a donné dans la mesure de la récompense. Et les derniers, ils étaient les fous. C'était les stupides dans l'histoire. Ils viennent pour la dernière heure. Ils vont travailler sans promesse, sans rien. Ils attendent rien. On ne sait pas ce que le maître va faire. Ils ne le connaissent pas vraiment. Est-ce qu'il est fidèle ? Est-ce qu'il paye à la fin ? J'en sais rien, moi. Il paye ou il ne paye pas ? Vous le connaissez, vous ? J'en sais rien, moi, s'il paye celui-là. Et ils ont été. Et ils ont reçu selon la mesure qu'ils avaient donnée au maître. Et le Seigneur a versé dans leur mesure une mesure serrée, secouée, tassée et qui déborde. Amen. Est-ce que vous voulez la mesure serrée, tassée, qui déborde ? Quelle est la mesure qu'on offre au maître ? Quelle est la mesure qu'on offre au maître ? Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Est-ce que je me suis engagé avec Dieu pour un salaire ? Est-ce que j'ai dit, Seigneur, d'accord, je vais avec toi, mais voilà le salaire que j'attends de toi. Voilà ce que j'attends à la fin de ma journée. Et je veux être payé. Oui, ça me paraît juste. Le Seigneur dit oui. J'agis avec toi selon ma justice et ma bonté. Je te donne le salaire que tu attends. Le voilà, reçois. Est-ce que tu attends une récompense de ton maître ? Tu attends une récompense ? Tu travailles pour la récompense. Et à la fin, tu viens vers le maître. Et tu as confiance dans ton maître. Tu as confiance dans ton Seigneur. Et c'est juste. Et il est digne, il est à la hauteur de la confiance que tu mets en lui, et il va te donner ta récompense. Ou alors, est-ce que tu as été tellement touché par le maître ? Est-ce que tu es tombé amoureux de ton maître ? Est-ce que tu as été touché par la famille du maître ? Est-ce que tu as été touché par la maison du maître ? Est-ce que ses vignes, sa vigne t'a touché ? Est-ce que ses terres t'ont touché ? Est-ce que ton cœur a été saisi ? Est-ce que ton cœur est remué, bouleversé par le maître ? À tel point que tu dis, je ne peux rien d'autre faire que d'aller avec toi, Seigneur. Je ne veux aller dans aucune autre vigne que la tienne. Je ne veux plus d'autres vignes. Je ne veux plus connaître d'autres terres. Je ne veux plus d'autres maîtres que toi. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais toi seul nous donnes la sécurité dans notre demeure. Je veux aller avec toi, maître. Mon bon maître, mon Seigneur et mon maître. Je ne veux plus d'autre chose que toi. je t'aime, j'aime ta maison, j'aime ta famille, j'aime les tiens, je t'aime, je te trouve tellement bon. Je trouve que travailler avec toi, c'est la chose la plus extraordinaire, la plus merveilleuse. Ça vaut la peine que j'aille jusqu'au bout de ce que je peux donner pour toi. On a une culture du mérite. On a une culture du mérite. Vous avez vu ce que le Seigneur il dit à la fin ? Est-ce que ton œil devient méchant parce que je suis bon ? Vous vous rendez compte ? Leur œil est devenu méchant. Est-ce que vous avez déjà vu ça, un œil devenir méchant ? Est-ce que vous avez déjà vu la méchanceté passer dans l'œil de quelqu'un ? Et le Seigneur, il a vu ça dans les serviteurs. Les premiers serviteurs, ils étaient là devant lui. Oh, c'était des bons travailleurs. Ils avaient bossé dur. Ils étaient dignes de respect. Qu'est-ce qu'ils avaient bien bossé ? Et ils avaient travaillé seuls dans la journée. Ils avaient abattu une grosse partie du boulot. Ils avaient été fidèles. Le Seigneur les aimait. Les maîtres les aimaient. Le maître était reconnaissant. Mais il n'avait pas pu aller au-delà du salaire sur lequel ils étaient mis d'accord. Et quand le maître a manifesté qu'il était bon et qu'ils ont vu que c'était injuste pour eux, le Seigneur a vu passer dans leur œil la méchanceté. Leur visage a tourné. Il y avait de la méchanceté dans leur œil. Et ça risque d'arriver dans nos vies parce que nous avons la culture du mérite. Quand j'ai fait telle chose, je mérite telle chose. Pour tel travail, pour telle attitude, je lui ai pardonné, Seigneur. Mais si je lui pardonne, je mérite aussi quelque chose. Seigneur, je t'ai donné ma dîme. Donc, je mérite aussi quelque chose, je mérite un retour. Seigneur, je t'ai obéi là, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai fait ce que tu m'as demandé, je veux mon salaire. Seigneur, je suis obéissant à ta parole, je fais tout ce que tu dis. Je travaille comme tu me le demandes. Seigneur, j'essaye d'aimer. Seigneur, il me semble que je suis quand même bien dans ce que je fais. Et Seigneur dit, je t'aime et je te remercie pour tout ce que tu fais. Je crois que le Seigneur va nous amener plus loin. Il veut nous amener au point où on n'attend pas quelque chose. On fait les choses parce qu'elles sont venues en nous. Elles sont devenues partie de notre nature. Je pardonne parce que je sais que je ne peux plus faire autrement. Je sais que c'est la grâce de Dieu en moi qui m'appelle à pardonner, parce que Dieu m'a pardonné. Et je veux pardonner, j'aime le pardon. Je ne sais pas comment l'autre en face va réagir. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas sur un salaire. Je ne sais pas sur une récompense. Je pardonne. Je libère totalement, complètement. Je pardonne. J'aime complètement, totalement. Je ne sais pas si j'aurai une récompense. Je ne sais pas si j'aurai une salaire. Je ne sais pas ce qui va y arriver. Mais Seigneur, je t'aime. J'ai trouvé ton amour. Ton amour coule dans ma vie. Tu m'as tant aimé, Seigneur. Je ne peux plus vivre autrement qu'en aimant. Je veux travailler à ta vigne, Seigneur. Je ne sais pas si j'ai une récompense. Je ne sais pas s'il y aura un salaire. Mais Seigneur, je veux travailler à ta vigne. Me voici, envoie-moi. Fais ce que tu veux de ma vie. Quelle est la mesure que tu offres au Seigneur ? Tu recevras selon la mesure que tu offres au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a pris plaisir à montrer sa bonté. Je crois que le Seigneur, on arrive dans des temps où il veut manifester sa bonté encore davantage. Pourquoi ? Parce qu'il veut faire passer devant nous toute sa gloire. Il veut déverser sur nous toute sa gloire, et sa gloire est dans sa bonté pour son peuple. Quand le Seigneur va pouvoir déverser la bonté sur l'Église, le monde va voir la bonté de Dieu. Il va voir que là où le monde a bossé dur, travaillé dur, ils ont eu selon l'ouvrage de leurs mains, que le Seigneur est plus grand, et que la bonté de Dieu est capable de multiplier par 12 les mérites de l'homme. Quand je dis 12, évidemment, c'est pour dire que le Seigneur peut multiplier bien plus. Et la bonté de Dieu veut se manifester dans nos vies, afin que le monde voit la gloire de Dieu dans l'Église, afin que le monde voit que la bonté de Dieu est réelle, et qu'ils peuvent être touchés, qu'ils peuvent recevoir eux aussi la bonté de Dieu, que la bonté de Dieu s'adresse à eux, que Dieu veut les bénir. On ne sait pas quel est l'avenir. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Encore, il y a eu des tornades aux États-Unis, des maisons sont écroulées. Des belles maisons américaines. Vous rendez compte de l'Amérique touchée? Elle a été touchée de plusieurs parts maintenant. Et ça nous montre que nos biens sont fragiles. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à nos biens. Mais Dieu nous donne quelque chose qui est plus solide. La bonté de Dieu va être suffisante pour nous. Le Maître nous appelle serviteurs. Alléluia. Il t'appelle serviteur, il te choisit. Est-ce que tu sais que tu es choisi comme serviteur? Dans Ésaïe 41, toi mon serviteur que j'ai choisi. Je t'ai choisi, j'ai été sur la place et je t'ai trouvé. Et je te prends. Et je voudrais dire, si jamais on est des serviteurs que le Seigneur a pris tôt le matin, ne croyons pas que le Seigneur va dire maintenant, c'est fini, tu n'auras que ton 100 euros. Hein? Évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon cœur peut changer. Je peux maintenant dire, Seigneur, peut-être jusqu'à présent, j'ai travaillé dans une optique. J'ai travaillé dans un certain objectif. J'ai travaillé dans une idée d'un certain contrat avec toi. Mais Seigneur, je te redonne tout, je remets tout sur l'autel. Et Seigneur, je te loue parce que je crois que tu veux me permettre de maintenant connaître davantage. J'ai marché parmi les mérites et maintenant je vais marcher par ta bonté. Et je vais voir ta bonté dans ma vie, je vais voir ta gloire dans ma vie. Et le Seigneur te donnera selon la mesure que tu lui offres. Toi, mon serviteur que j'ai choisi, je ne te rejette pas. Je t'ai appelé, tu es à moi. Dans tous les chapitres d'Ésaïe 41, j'ai envie de le lire avec vous encore. Je crois vraiment que c'est une parole que le Seigneur veut nous dire à plusieurs pour nous encourager. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham que j'ai aimé, toi que je suis allé chercher sur la place publique, toi que j'ai appelé de loin de la place, oh viens, je t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je ne te rejette pas. Ne sois pas effrayé, n'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas d'angoisse, moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je te donne ma force, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi seront dans la honte et dans le déshonneur. Est-ce qu'il y en a qui sont irrités contre toi? Ils devront se taire. Tes adversaires seront réduits à rien. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient et qui te faisaient la guerre. C'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. Je te saisis ta main droite. Je te dis, sois sans crainte. Je t'aide. Sois sans crainte, petit ver de Jacob, je viens à ton aide. L'Éternel le déclare. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf, armé de pointes. Tu battras les montagnes et tu les broieras. Tu placeras ta joie en l'Éternel et ta fierté dans le sein d'Israël. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment nous fortifie par ses paroles. Alléluia. Nous sommes appelés à être des vases utiles pour notre maître. J'ai été touché par ce mot « servir ». Est-ce qu'il vous touche ce mot servir? C'est un mot que j'utilisais pas non plus beaucoup, servir l'Éternel. Nous sommes appelés à le servir. Est-ce que ça sonne à vos oreilles, servir l'Éternel? Je prie vraiment au Seigneur que tu touches nos cœurs par ce mot de servir l'Éternel. Nous voulons devenir des serviteurs qui cherchent à servir leur maître. Comme les yeux de l'esclave sont sur son maître, comme les yeux de la servante sont sur la main de son maître. Vraiment, Seigneur, que tu nous touches par ton cœur de maître. Vraiment, Seigneur Jésus, que nous devenions ardents de te servir, de chercher qu'est-ce qu'elle est l'ordre du maître, quelle est la pensée du maître, que tu n'aies même plus besoin de parler, qu'on voit dans ton regard ce que tu désires, que les désirs du maître deviennent des ordres pour nous. Que les désirs du Maître deviennent nos ordres de mission. Seigneur Jésus, que nous ayons à cœur les désirs de ton cœur. Que ce qui est dans ton cœur vienne dans notre cœur. Que nous soyons des serviteurs qui fonctionnent comme leur Maître. Que nous soyons des serviteurs qui ressemblent à leur Maître. Comme Abraham, quand il a envoyé son serviteur chercher la fiancée pour Isaac. Il a eu tellement confiance dans son serviteur qu'il lui a dit, « Je te confie la tâche de trouver une épouse. » Il a eu confiance dans son serviteur, c'était un autre lui-même. Le serviteur était devenu comme son maître. Le Seigneur a dit, mais le serviteur sera comme son maître. Que nous soyons des serviteurs comme notre maître. Que nous ayons à cœur de le servir et que nous devenions comme lui. Le Seigneur veut nous marquer par sa bonté. Le Seigneur veut nous marquer par sa grandeur d'âme. Le Seigneur veut nous marquer par son cœur. Il veut nous marquer par son amour pour les perdus. Il veut nous marquer par son amour pour la vigne. Il cherche des ouvriers qui vont tout donner pour lui, qui vont tout donner, qui vont tout lâcher, qui vont dire oui, ta vie n'est plus que toute autre chose. Alléluia, Seigneur. Vous connaissez les chants des serviteurs sur la bonté de l'Éternel. Psaume 36, 6, 11. Combien est précieuse ta bonté, Seigneur. Elle atteint jusqu'aux cieux. Les serviteurs chantent pour la bonté du Maître. Je pense qu'ils ont chanté le soir, les serviteurs qui ont touché les 100 euros. Combien est précieuse ta bonté, Maître. Combien tu es bon. Combien c'est précieux. Ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Psaume 63, 4. Ta bonté vaut mieux que la vie. Psaume 143, 8. Fais-moi entendre ta bonté dès le matin. Le Seigneur veut qu'on se lève et qu'on s'endorme avec la bonté du Seigneur. Lamentation, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent tous les matins. Ésaïe 63, je rappellerai les actes de bonté de l'Éternel. Je redirai ses louanges, je dirai sa grande bonté envers nous. Les chants du serviteur qui a connu la bonté du Maître. Est-ce qu'on a connu sa bonté? Le Seigneur veut désormais que tu connaisses sa bonté. Et que pour toi, elle devienne quelque chose de tangible. Comment il le dit? Il dit, sentez et voyez, goûtez, voyez. Combien l'Éternel est bon. Je pense que c'est sa parole pour ces temps. Sentez et goûtez que l'Éternel est bon. Sentez. Vous allez le sentir, ça va être dans l'air de votre journée. Vous allez le sentir, vous allez le toucher, vous allez le prendre. Mais le Seigneur est bon. Tu avais raison, il est bon. La parole a raison, Dieu est bon. Et je vais le voir dans ma vie. Et je ne l'ai pas mérité, Seigneur. Mais je n'ai pas mérité que tu sois bon dans ma vie. Seigneur, je n'ai pas mérité ce cadeau. Je n'ai pas mérité que tu fasses ça dans ma vie. Seigneur, ce n'est pas juste même pour ma vie que tu le fasses. Seigneur, je ne suis pas à la hauteur de ta bonté pour ma vie. Et le Seigneur dit, mais est-ce que ça te dérange que je sois bon pour toi? Que ça ne te dérange pas? Je t'aime. Et je veux que tu connaisses ma bonté. Tes mérites ont une limite. Tes mérites sont peut-être grands. Tes mérites sont plus grands que bien d'autres. Mais ils ont une limite que je ne peux pas dépasser si je fonctionne tout d'après tes mérites. Et je veux maintenant fonctionner avec un autre double décimètre. Je vais changer de double décimètre. Le centimètre dorénavant ne mesurera plus 1 euro. Il va mesurer 100 euros. On va mesurer maintenant selon une mesure qui mesurera différemment. Et ce sera plus selon tes mérites, selon ce que tu arrives à faire, selon ce que tu as gagné. Selon ce que tu as réussi à mettre au point, selon ce que tu as réussi à obéir, selon ce que tu as réussi à mettre en pratique, on va dépasser cette mesure parce qu'elle est plus suffisante. J'ai besoin d'une autre mesure pour ta vie et pour mon Église. J'ai besoin d'une mesure maintenant qui va dépasser les frontières de ta vie. Je veux une mesure maintenant qui dépasse toutes les limites de ton entendement, de tout ce que tu as imaginé jusqu'à aujourd'hui. Je veux aller beaucoup plus loin. Maintenant, on va aller plus vite. Jusqu'à aujourd'hui, tu as marché. Tu as marché fidèlement. Tes pas ont marqué de juste pas. Mais désormais, on va courir. Et non seulement on va courir à la vitesse de l'homme, mais on va courir comme des chevaux, au nom de Jésus. Et j'ai besoin que maintenant tu mettes dans ta vie une autre mesure, que tu sois capable d'y réaliser que tu vas courir comme un cheval dans la vie, dans ce que j'ai appelé à toi, que je t'ai appelé à faire. Et c'est là, c'est possible que par ma bonté. J'ai besoin que tu saches aujourd'hui que je suis pourtant un père aimant et un maître bon. J'étais tout surpris de découvrir sur Internet, par hasard, il y avait une liste de prénoms hébreux. Il y avait le prénom Éden. Et si tu écris d'une certaine façon Éden, ça veut dire délice. C'est le jardin des délices. Mais si tu l'écris d'une autre façon, vous savez ce que ça veut dire? Père et maître. Père et maître. Le jardin des délices, c'est le jardin du Père et du Maître. Et ce jardin du Père et du Maître va devenir ton jardin des délices. Parce que ton papa t'aime. Parce que papa est aimant envers toi. Parce qu'il veut que tu réalises à quel point tu es fils bien-aimé. Et le fils, il va devenir un serviteur. Un serviteur comme son père, comme son maître. Un serviteur plein d'amour et plein de bonté. Et quand ils terminent Éphésiens et Tite, ils disent... La bonté de Dieu est venue te chercher dans ta misère et dans ta pourriture et dans ta perdition. Il t'a sauvé, il a fait de toi un fils bien-aimé du Père, il t'a assis dans les lieux célestes, il t'a régénéré, il a répandu son esprit sur toi en abondance afin que tu rentres dans des œuvres qui sont bonnes. Tes œuvres vont devenir bonnes. Ce ne seront plus des œuvres de travail, ce seront des œuvres de bonté parce que tu as connu la bonté du Père. Et ces œuvres vont devenir bonnes. Ce ne seront plus seulement des bonnes œuvres. mais ce sont des œuvres qui coulent d'une bonté extraordinaire du Père. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Vous m'accordez encore 5 minutes? Je peux? Est-ce que je voudrais vous faire voir rapidement la bonté de Dieu jusqu'où elle va. Vous savez ce que David avait, qu'est-ce qui s'est passé un jour avec David? Il a été faire une guerre, je crois. Il est rentré avec ses hommes. Tout avait disparu. Les armées ennemies avaient tout pris. Femmes, enfants, nourriture, biens, tout était perdu. Et ces hommes étaient dans l'angoisse. Et c'était des guerriers et ils pleuraient. Et ils ont voulu tuer David. Et David a crié à Dieu et Dieu lui a dit « Va et recouvre tout. Au nom de Jésus, va et recouvre tout. » Et il a tout recouvert. Job avait tout perdu. Et le Seigneur a permis qu'il perde tout. Et il a tout retrouvé. Par la bonté de l'Éternel, il y a eu au double de tout ce qu'il avait avant. Et il existe une histoire dans 2 Rois 8. Élisée avait ressuscité le fils d'une femme un jour. Et dans le roi 8, il dit à cette femme, il faut que tu t'en ailles à l'étranger avec ta famille, parce qu'il va y avoir une famine dans le pays. Va, pars. C'est au chapitre 8, pardon. La femme suivit le conseil de l'homme de Dieu, verset 2. Elle s'en alla avec sa famille, s'installa pendant 7 ans dans le pays des Philistins. À la fin de la 7e année, elle en revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention, afin qu'on lui rende sa maison et ses terres. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait, « Raconte-moi toutes les merveilleuses choses que Élisée a accomplies. » Au moment précis où il lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Et Géasi cria, « Monseigneur le roi, voici la femme dont je te parle. C'est elle, elle est justement en train d'entrer là. Wow, c'est incroyable, c'est incroyable ça. Je suis en train de parler de cette femme, elle entre juste là. C'est le fils, c'est son fils, c'est le maître que Élisée a ressuscité. » Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute son histoire. Et le roi mit à sa disposition l'un de ses serviteurs, auquel il dit, « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient et qu'on lui paye même les intérêts de ses terres, tout ce qu'ils ont rapporté depuis le jour où elle est partie, jusqu'à maintenant. » Amen. Voilà la mesure de la bonté de Dieu. Ça, c'est sa mesure. Ça, c'est sa mesure. Tu as été spolié? Est-ce que tu as été spolié dans ta vie? Est-ce que tu as été volé dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont été prises? Est-ce qu'il y a des choses que le Seigneur voulait faire dans ta vie qui n'ont pas été accomplies? Est-ce qu'il y a des promesses que Dieu t'avait données et tu as l'impression qu'elles ne se sont jamais accomplies? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu avais travaillé et qui ne se sont pas accomplies? Est-ce que tu sais que l'ennemi a agi selon sa nature? Il est le voleur, le destructeur. Est-ce que tu as été volé par l'ennemi? Est-ce qu'il t'a pris des choses? Eh bien maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans le secret de ta chambre, tu vas venir devant le roi. Tu vas t'agenouiller et tu vas implorer le roi. Et ton roi va ordonner, va donner des ordres à ce sujet. Il va donner des ordres à ses serviteurs, à ton sujet. Et il va te dire, redonnez-lui tout ce qui lui a été pris. Redonnez-lui sa maison et ses terres. Redonnez-lui tout ce que j'avais prévu pour lui, pour elle, tout ce que j'avais dit pour elle, tout ce que je veux pour elle. Que tout lui soit rendu. Et redonnez-lui avec les intérêts. Qu'elle soit bénie au-delà. Au-delà. Amen. On va prier. Alléluia, Papa. Alléluia, Seigneur. Je te loue parce que tu veux nous faire entrer dans une nouvelle vision de qui tu es. Pardon, parce qu'on avait gardé de toi une vision fausse. C'est vrai qu'on avait encore cette fausse image du Papa. Nos papas ont souvent été durs. Dans leurs propres yeux, on a vu passer la dureté et la colère. Combien de fois leurs gestes ont été menaçants envers nous? Combien de fois, Seigneur, aussi, ils n'étaient peut-être pas à la hauteur. Et Seigneur, pardon, parce qu'on a gardé cette vieille image. Seigneur, nous te demandons que tu changes encore l'image en nous. Nous disons, oui encore, travaille en nous, pour que cette vieille image change, et qu'on reçoive l'image du Papa plein d'amour, qui prend ses bras dans ses fils, qui les serre contre lui, qui les lave par ses baisers, qui les restaure, qui les revêt d'habits de fête, qui les nourrit dans sa maison. Seigneur, merci parce que tu veux qu'on rentre dans notre pleine stature de fils. C'est plus l'heure de la tutelle. C'est plus l'heure que tu sois sous la tutelle. Tu as un fils et une fille qui a été longtemps sous tutelle. Et maintenant, le Seigneur te dit, c'est fini l'âge de la tutelle. C'est l'âge maintenant de ta maturité pour que tu rentres dans la maturité du fils et de la fille de Dieu. Et que tu prennes position, ta place à la droite du Père. Tu es assis dans les lieux célestes et tu es prêt à régner avec lui. C'est fini les enfantillages. C'est fini les enfantillages. C'est fini le temps où on accomplit selon l'ancienne façon de vivre. Maintenant, c'est le temps de devenir des fils et des filles de Dieu, dans la simplicité d'être un enfant de Dieu. Simple comme un enfant, mais plus d'enfantillage. Le Seigneur te dit, c'est le temps pour toi de ta maturité. Que tu rentres dans ta maturité spirituelle et que tu prennes la place que Dieu veut pour toi. C'est le temps aussi que mes fils et mes filles deviennent mes serviteurs et mes servantes. Pas des esclaves qui ne savent pas ce que fait la main de leur maître, mais des serviteurs qui sont des amis, qui comprennent le cœur du maître. Des serviteurs qui ont découvert le cœur d'amour du maître, qui aiment le maître, qui sont touchés par sa maison, par sa famille, qui aiment sa parole, qui sont touchés par dans leurs entrailles et qui vont servir parce que l'amour les a chamboulés, parce que l'amour de Christ les presse. Des serviteurs qui deviennent comme leur maître, aimants, qui sont des pères et des maîtres aimants dans là où Dieu les place. L'amour de Dieu va couler au travers de la bonté de Dieu. Et le Seigneur veut te restituer. Le Seigneur dit restitue, restitue maintenant. C'est l'heure de la restitution. Nous sommes entrés dans une ère de restitution. Et au nom de Jésus, nous rappelons tout ce qui nous a été volé. Nous disons restitution. Maintenant, au nom de Jésus, que tout ce qui nous a été pris nous soit rendu, nous soit restitué. Alléluia. Et Seigneur, nous mettons notre foi en accord avec toi. Nous nous mettons d'accord avec toi. Tu dis, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Et Seigneur, nous voulons nous mettre d'accord parce que nous sommes un homme qui veut marcher avec toi. Nous sommes un serviteur qui veut marcher avec son maître. Un fils qui veut marcher avec son papa, côte à côte. Les pas dans les pas. La main dans la main. La pensée en accord. Même pensée, même cœur, même âme avec toi. Nous voulons devenir un avec toi. De plus en plus, nous voulons nous rapprocher, nous resserrer de toi. Nous voulons resserrer les liens. Resserrez les rangs au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Je voudrais vous laisser encore un petit mot qui m'a chamboulé. Dans le désert, le Seigneur dit, des anges vinrent et le servirent. Et c'est comme si j'avais l'impression que le Seigneur me disait, c'est comme s'il était encore dans un désert aujourd'hui. Un désert face aux âmes qui se perdent, aux centaines de milliers d'hommes qui se perdent jour après jour. Il est un désert parce qu'il ne retrouve pas toujours des cœurs qui le comprennent. Parce qu'il se sent seul dans ce qu'il vit. Et il dit, est-ce que tu veux être l'ange qui va venir et qui va me servir? Est-ce que tu veux être cet ange qui va venir et qui va étancher la soif de mon âme? Est-ce que tu es cet ange qui va venir vers moi et qui va étancher la soif de mon cœur? Mon cœur attend, mon cœur est assoiffé. Est-ce que tu es celui qui m'apporte un verre d'eau? Le Seigneur a dit, il y aura une récompense de prophète pour celui qui donne un verre d'eau à un prophète. Est-ce que tu veux être celui qui va donner un verre d'eau à Christ le prophète? Veux-tu être celui-là? Veux-tu venir et le servir? Veux-tu venir avec ce cœur de serviteur humble, aimant, pour le servir? Le Seigneur attend. Le Seigneur t'attend. Amen. Amen.